changer votre vie et votre destinée. Mais c'est pourquoi on veut préparer notre cœur. J'aimerais vraiment vous inviter à vous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint ce matin, d'être attentif de qu'est-ce que Dieu va dire. Parce que cette parole est inspirée de lui, les versets que nous allons lire sont inspirés de Dieu, et puis on veut les recevoir telles qu'elles sont, inspirées de Dieu. Vous savez que Paul a dit ça aux Thessaloniciens, il a félicité l'Église parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu telle qu'elle était, pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc la parole agit seulement quand vous croyez. Si vous croyez pas, ça marche pas. C'est comme avoir du poudre noir sans avoir le feu. Si vous avez du poudre et puis vous mettez de feu, il y a une explosion. Même chose, la parole de Dieu, si vous n'êtes pas mélangé avec la foi, ça change rien. Donc vous avez deux choix ce matin. Vous pouvez juste être là et écouter les paroles qui sortent de la bouche d'un gars en avant qui des fois casse le français, ou vous pouvez recevoir dans votre cœur la parole inspirée de Dieu. Vous pouvez mélanger la foi avec cette parole et vous pouvez sortir d'ici changé et transformé. Et moi, je sais, mon choix est déjà fait. Parce que savez-vous que même si c'est moi qui prêche, c'est quand même la parole de Dieu. Je suis béni avec vous par la présence de Dieu et par l'onction de l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit m'enseigne souvent en route. N'est-ce pas merveilleux? En plus, j'ai eu l'avantage de pouvoir prendre du temps pour étudier, pour préparer cela. Donc, c'est merveilleux. Donc, on va dire ceci. Voici ma Bible. Et si vous n'avez pas de Bible, prenez la feuille que vous avez à la porte. Presque tous les versets sont écrits là-dessus. Qu'est-ce qu'on va voir ce matin? Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ. Amen. Laissez-vous transformer. Vous voyez ici l'image à gauche, c'est une chenille. L'image à droite, c'est un papillon. Et qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'en réalité, c'est la même création, n'est-ce pas? C'est la même créature. La seule différence, c'est que celle à gauche, la création à gauche, n'a pas encore été transformée. Mais le potentiel de transformation est là depuis sa conception, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'on a vu? Et si on peut juste avancer un peu, on a un autre verset que nous allons lire, c'est notre verset clé. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer, tout le monde est transformé, par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Donc on voit, laissez-vous transformer. Savez-vous que la transformation que le Seigneur veut qu'on vive et que vous désirez vivre, je suis sûr, que ce n'est pas une chose automatique, qu'on a un choix à faire, et on va parler de cela aujourd'hui, que si vous faites le bon choix, vous serez transformé. Si vous ne faites pas le bon choix, vous allez rester chenille. Et vous pouvez passer 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans sur la terre en tant que chrétien sans jamais être transformé dans l'image de Jésus-Christ. Et c'est pas ça qu'on veut. Moi, je veux vivre pleinement. Moi, je veux développer et manifester la nature de Dieu et les fruits de l'Esprit. Je veux que quand les gens me voient, qu'ils voient Jésus. Et vous? C'est ça mon désir. Et je sais que je suis en route. Je sais que le Seigneur m'a déjà changé et transformé beaucoup, mais j'ai encore beaucoup de route à faire pour arriver à ma destination finale. Et vous? Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà rendus, votre vie est déjà parfaite et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, toutes vos actions reflètent parfaitement la nature divine. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est déjà rendu à la perfection? Personne. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se laisser transporter. C'est pas notre choix. Si on peut regarder le prochain diapo, on a parlé de cela. C'est que ici, on a deux autres images. On a un verre et une chenille. Donc, on a vu que, bon, dans un sens, le verre et la chenille, ils se ressemblent un peu. On pourrait même dire, des fois, les enfants vont voir une chenille, ils peuvent même dire, oh, regarde, c'est un verre. Mais il y a une grande différence entre un verre et une chenille. Le verre n'a pas l'ADN nécessaire pour devenir papillon, tandis que le chenille contient en lui-même toutes les qualités, toutes les caractéristiques et toute l'ADN nécessaire pour que la transformation puisse avoir lieu et qu'il puisse devenir un papillon. Le ver de terre ne va jamais voler, comme j'ai dit, à moins qu'il va à la pêche. C'est ça? Tandis que le chenille peut voler aussi longtemps qu'il se laisse transformer en papillon. Donc, on a vu que c'est vraiment une bonne comparaison parce que les gens qui ne connaissent pas Jésus, ils n'ont pas encore la capacité de devenir comme Jésus. La première chose qu'on a besoin de faire, c'est de devenir une chenille. Et c'est-à-dire qu'il faut passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Ça, c'est la nouvelle naissance. On accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. On confesse avec sa bouche. On croit dans le cœur. Et la Bible dit qu'on est né de nouveau. Nous devenons une nouvelle création. Tout le monde dit une nouvelle création. Littéralement, ça veut dire une nouvelle espèce de créature qui n'a jamais existé auparavant. C'est comme si le verre est pas juste transformé, mais est complètement changé surnaturellement. C'est un miracle, le verre est changé en chenille. Quand vous êtes devenu chrétien, c'est à peu près ça qui s'est passé. Votre cœur du pécheur a été remplacé par le cœur de pierre, a été remplacé par un cœur de chair. Le cœur du pécheur a été remplacé par le cœur d'un homme juste. La Bible dit que celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour que nous puissions devenir la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et je suis une nouvelle espèce de créature qui n'a jamais existé auparavant. Je ne suis plus un pécheur. Et c'est là où il faut commencer ce processus de transformation. Si vous voulez devenir papillon, voler, si vous voulez spirituellement, il faut commencer au commencement. Si vous êtes en verre, oubliez ça, ça va jamais marcher. Et selon la Bible, nous étions tous, sans exception, tout le monde est venu dans ce monde avec une nature pécheresse. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont besoin de la nouvelle naissance. Tout le monde dit la nouvelle naissance. Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc ça, c'est la première chose. Il faut devenir chenille, si vous voulez. Il faut recevoir en soi la semence incorruptible, la présence du Fils de Dieu. L'Esprit Saint doit faire son œuvre dans notre cœur pour faire de nous une nouvelle création. Mais n'oubliez pas, nous sommes des êtres sur trois dimensions. Nous sommes un... Bon, on va recommencer au commencement. Nous sommes un esprit. Tout le monde dit, je suis un esprit. Vous possédez une âme et vous vivez dans un corps. Donc, la partie de vous qui est devenue une nouvelle création, c'est quoi? C'est votre esprit, votre fort intérieur, votre cœur, le vrai vous qui est créé à l'image de Dieu. Votre esprit a été recréé si vous êtes en Jésus-Christ. Ce matin, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vous n'avez pas encore la nature divine dans votre vie. Vous pouvez être une bonne personne et vous pouvez essayer de faire tous les efforts que vous voulez pour être comme Jésus et mener une bonne vie. Moi, j'ai quelqu'un de très cher à moi dans ma famille qui, selon ma connaissance, n'est pas vraiment né de nouveau. Mais la personne dit, mais tu sais, je suis pas sûr que je crois que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Mais je suis les principes chrétiens et j'essaie d'être gentil avec mes voisins. Donc, dans le fond, je vis selon les principes de la vie chrétienne. Donc, ça devrait aller. Mais ça marche pas comme ça. C'est comme le ver qui essaie de devenir papillon. Ça marchera jamais. Il faut naître de nouveau. Amen? Et après la nouvelle naissance, notre esprit est régénéré, recréé instantanément. Mais la Bible dit que nous avons besoin d'être transformés, comment? Par le renouvellement de notre intelligence. Donc, c'est-à-dire que notre âme a toujours besoin d'être sauvée. Recevez avec douceur la parole plantée dans votre cœur qui est capable de sauver vos âmes. Et c'est quoi l'âme? L'âme est quoi? Votre intelligence, vos émotions et votre volonté. Et on a parlé de ça, que si vous voulez être transformé, il faut changer ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et ce que vous choisissez ou désirez dans un sens. Parce que la volonté représente qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on décide de faire. Et savez-vous que on a déjà fait tout un message sur comment contrôler ses pensées. La semaine passée, on a parlé de comment contrôler ses émotions. Et si vous n'étiez pas là, je vous encourage à écouter sur l'Internet ce message de comment contrôler ses émotions. Les émotions sont une bonne chose. C'est Dieu qui a créé les émotions, mais les émotions ont été tordues à cause du péché. Et si une personne se laisse dominer par les émotions, sa vie va être comme ça, les hauts et les bas, les hauts et les bas. Et il va amener toute sa famille avec, et tous les collègues au travail vont aller avec. Et on a dit qu'on est capable, en tant que chrétien, de contrôler, pas refouler, mais vraiment contrôler les émotions et les vivre pleinement. Amen. Mais ce matin, on va terminer cette série en parlant de l'autre partie, de l'âme. On a parlé de l'intelligence, on a parlé des émotions, mais ce matin, on va parler de la volonté. Est-ce que vous voulez entendre cela? Bon. Parce que, savez-vous que la volonté est une chose extrêmement importante. En fait, le titre du message, c'est « Faire le bon choix ». La puissance de votre volonté. Et qu'est-ce qu'on va voir? C'est que dans la parole de Dieu, nous voyons plusieurs versets qui parlent de la volonté et qui parlent du fait que notre volonté est libre en Jésus-Christ. Mais première chose, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 points que je veux souligner assez rapidement. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps là parce que j'ai autre chose que je veux souligner à la fin du message. Mais la première chose que je veux dire tout simplement, c'est que Dieu nous a créés avec le pouvoir de choisir. N'est-ce pas merveilleux que Dieu n'a pas voulu créer des robots? Oui, Seigneur, je t'aime, je te loue. Je te donne ma vie, je fais ta volonté. Et c'est pas ça qu'il voulait. Dieu est un père, Dieu voulait avoir une famille, il voulait pas. Combien de vous aimeriez avoir comme épouse, messieurs? Vous aimeriez avoir une femme que tu vas juste programmer, c'est-à-dire, je t'aime chérie. Mais attention, je sais qu'il y a peut-être des hommes qui pensent aimeraient avoir ça. Mais vous êtes trompé, monsieur, et ça serait plus le fun après une semaine ou deux, ça serait pas mal plate. Qu'est-ce qu'on veut? On veut pas quelqu'un qui est forcé de nous aimer, qui doit nous aimer parce qu'il est programmé de nous aimer, de dire la bonne chose. Chérie, je t'aime. Non, on veut quelqu'un qui, de son propre gré, a pris une décision de nous aimer, n'est-ce pas? Et on sait que la personne nous aime parce que la personne a décidé de nous aimer. C'est ça qu'on désire. Et savez-vous que c'est ce que Dieu veut? Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, la Bible dit, n'est-ce pas? Et il ne veut pas une épouse programmée, il veut une épouse inspirée. Alléluia. Deutéronome 30, 19, nous voyons quelque chose. « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Est-ce que tu vois le pouvoir de choisir? Dieu a toujours fait ça. Il a mis dans le jardin, devant Adam et Ève, tout un jardin plein d'arbres, plein de fruits succulents, merveilleux. Peux-tu imaginer? Moi, j'aime ça, manger une pomme qu'on vient de cueillir ou une orange. On voit les fraises. Mais imaginez le fruit qu'il y avait dans le jardin d'Éden. On parle du fruit qui était succulent, ça doit être quelque chose. Mais il avait devant lui un choix. Dieu a dit, mangez de tout ce que vous voulez, sauf mangez pas de cet arbre-là. Donc, personne n'a forcé Adam et Ève de pécher. Ils ont pris une décision de leur volonté, de leur propre gré. Ils ont désobéi à Dieu. C'était la volonté qui a fait la différence. Regardons. Deuxième chose, notre volonté détermine nos choix et notre destinée. Notre volonté détermine nos choix et notre destinée. Qu'est-ce que vous voulez va déterminer qu'est-ce que vous décidez. Et qu'est-ce que vous décidez va déterminer votre destinée. Josué 24, 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont déterminés de suivre Dieu? Mais savez-vous que votre décision aujourd'hui, vos choix aujourd'hui, vont déterminer votre futur? Et souvent, on parle aux jeunes, surtout, les enfants, les ados, on dit, écoute, faites attention à vos choix, parce que vos choix aujourd'hui vont affecter tout votre futur. N'est-ce pas? C'est comme la pâte à dents. Ici, j'en ai un. Je ne le traîne pas toujours dans ma poche. Mais votre vie, c'est comme la pâte à dents. À chaque fois que vous prenez une décision, tu vois, ça sort. Moi, je suis équipé avec un sac, là. Mais vous savez, on a juste une vie à vivre, n'est-ce pas? Et une fois que la vie est terminée, c'est terminé ici sur la terre. Et on peut dire qu'à chaque fois que notre volonté est engagée et que nous prenons une décision, notre vie est dépensée, là, moi, je peux prendre des choix de faire toutes sortes de choses, et je peux même, à la fin de ma vie, ça va être comme ça. Ce que vous voulez détermine ce que vous décidez, et ce que vous décidez va déterminer votre destinée. Et une fois que la décision est prise, c'est prise. Moi, je serais prêt même à faire un chèque de $20 s'il y a quelqu'un ici qui pourrait remettre ça là-dedans dans les prochaines 5 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer? Je te conseille de ne pas essayer. J'ai déjà fait ça avec un jeune une fois. Je l'ai filmé. Je donnerai je ne sais pas combien pour avoir le film parce que la personne était là. Il a essayé tout. Il a mis ça dans sa bouche. Il a essayé de siffler. C'était dégueulasse. Et même sur ça, de sa propre vue, je lui ai dit, oh, ça marche pas. Il était tout bleu, mauve. Il a dit, ça marche pas. C'est dégueulasse. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que notre volonté, moi, je veux pas gaspiller ma vie. Là, j'ai gaspillé 64 scènes. Mais 64 cents, ça vaut la peine, parce que si ça peut aider quelqu'un, pensez à votre vie comme ça, du pâte à dents. OK? Et c'est peut-être même pas gaspillé, je peux peut-être m'en servir. Mais vos choix sont importants. Moi, je veux prendre la bonne décision dans ma vie. Je veux faire des bonnes choses dans ma vie. Mais la chose qui va déterminer ma destinée, c'est mes choix, ma volonté. Donc encore, on parle de renouvellement de l'intelligence. On parle de sauver notre âme. On parle d'être transformé par la puissance de Dieu. Regardons ceci. Troisième point. Dieu ne va jamais violer notre volonté. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas que quelqu'un périsse, mais voulant que tous arrivent à leur repentance. Avez-vous remarqué que selon ce verset, Dieu veut, tout le monde dit Dieu veut, Dieu veut que tout le monde, sans exception, soit sauvé. Alors, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce qu'il ne décide pas pour nous? Juste dire, OK, bon, Boum, vous êtes sauvés, vous êtes nés de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné notre propre volonté, et même s'il veut une chose, si nous voulons autre chose, il nous laisse tranquille. Pas tranquille dans le sens qu'il ne va pas essayer de nous convaincre, parce qu'il va faire tout son possible, il va envoyer des personnes pour nous parler, il va nous donner sa parole, il va, par son Esprit Saint, il va nous convaincre, il va essayer de nous diriger et nous amener dans la bonne direction, mais on a quand même le pouvoir de décider si on va dire oui ou si on va dire non à Dieu. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il va faire tout son possible pour dire, choisis la vie, choisis la vie. Mais on peut toujours dire, non, je choisis la mort, comme Adam a fait. Ou comme on voit tous les jours les personnes, les messieurs qui vont décider de gaspiller encore leur vie dans une relation d'adultère. Ils prennent une décision et les conséquences sont graves. Combien de personnes qu'on voit, ils ont perdu leur vie, leur famille, ils ont tout perdu parce qu'ils n'ont pas pris la bonne décision. Est-ce que vous me suivez ce matin? La bonne nouvelle, c'est que Dieu est miséricordieux et avec sa grâce, il peut, malgré notre stupidité, il peut nous racheter. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais une autre chose qu'on veut souligner, la quatrième chose, il faut que notre volonté soit soumise à sa volonté. Donc, Dieu a une volonté, mais nous avons une volonté aussi. Donc, la clé, c'est quoi? De mettre notre volonté sous la sienne. Soumission n'est pas une mauvaise chose, vous savez? Des fois, on entend le mot soumission et ça nous fait peur. Pourquoi ça nous fait peur? Parce qu'on n'a pas compris. Parce que, aussi, nous avons vu des abus. Des gens en autorité qui ont abusé de leur autorité et les gens ont peur de se soumettre. Mais savez-vous que si la personne à qui on est soumis est digne de notre confiance et si la personne a notre intérêt à cœur, on n'a rien à craindre. Au contraire, dans le fond, c'est comme une protection d'être soumis à quelqu'un, n'est-ce pas? Et laissez-moi vous dire, la soumission veut dire tout simplement se mettre sous la mission de quelqu'un d'autre. Dieu a un plan, Dieu a une volonté, il y a des choses que Dieu veut pour votre vie. OK? On va le dire, regarde quelqu'un à côté de vous et dit, Dieu veut des choses pour votre vie. Il y a des choses que Dieu veut pour votre vie. Amen. Savez-vous, Dieu a une volonté concernant votre salut. Il veut que tout le monde soit sauvé. Dieu ne veut pas que vous brûliez à l'enfer. Regarde une autre personne et dit, Dieu ne veut pas que tu passes l'éternité à l'enfer. Ça, c'est comme simple. On commence là. Dieu a une volonté. Mais vous savez-vous, Dieu a aussi une volonté pour votre vie familiale, pour votre mariage. Il y a des choses que Dieu veut pour votre vie, pour votre carrière, pour vos finances, pour tout ce qui a tous les domaines de votre vie, Dieu a une volonté. Donc, voici la clé. Si vous voulez réussir, il faut mettre votre volonté sous sa volonté. Mettez la mission de votre vie sous sa mission pour votre vie. Parce que ça, c'est destiné à réussir. Alors, on parle de ça. La puissance de la volonté aujourd'hui. On voit un exemple en Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est facile de dire, oh, je suis chrétien, j'aime Jésus, mais est-ce que nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu? Alors, regardez-moi droit dans les yeux. Est-ce que nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu? C'est ça qui détermine si on est vraiment soumis à lui ou non. Jésus, on sait qu'il était obligé de se soumettre même au Père. Quand il était sur la terre, sa mission c'était de donner sa vie, d'être sacrifié, crucifié, torturé, battu, tué à la croix du calvaire. Et son corps ne voulait pas le faire. Combien de vous, vous croyez que Jésus avait hâte physiquement d'aller à la croix? la journée de la crucifixion. Oh, youpi, aujourd'hui je serai livré. Je vais être trahi aujourd'hui. Oh, j'ai hâte, ça va être le fun. Ils vont me prendre, ils vont arracher ma barbe, ils vont me battre, ils vont me fouetter, ils vont déchirer toute ma chair, je vais saigner, je vais avoir mal, je serai séparé d'avec le Père. Oh, j'ai hâte. Non? Au contraire. Il savait que c'était quelque chose de difficile, mais on va voir qu'est-ce qu'il a fait. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. Tout le monde dit, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et ça, c'est la clé de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Et c'était pour son bien, parce que c'est pour la joie qui était devant lui, la Bible dit, qu'il a souffert l'ignominie et la honte. C'est parce qu'il voyait que si je passe par la croix, je vais aussi passer par la résurrection, je vais pouvoir racheter l'Église, détruire Satan et avoir une famille pour l'éternité. Mais c'est pour cette joie qu'il a faite. Et vous devriez savoir aussi que qu'est-ce que Dieu veut pour votre vie, c'est vous bénir. Il veut vous donner le max. Il veut que vous soyez comblés. Mais des fois, il faut passer aussi par des moments difficiles pour pouvoir arriver là où le Seigneur veut qu'on soit. Amen. Puis, une cinquième chose là, nous avons le pouvoir de choisir le bon désir. Ça rime, mais c'est vrai. Nous avons le pouvoir de choisir le bon désir. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Parce que ce que vous désirez va déterminer ce que vous choisissez. Et ça va influencer vos choix. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes une personne sur trois dimensions. Esprit, âme et corps. Et qu'est-ce que j'ai découvert, c'est que chaque partie de vous a des désirs. Dans le fond, chaque personne peut avoir trois désirs qui se manifestent à la fois. Le corps peut désirer, par exemple, une chose. L'esprit peut désirer une autre chose. Et puis, c'est qu'est-ce que vous faites avec votre volonté au niveau de votre âme, la décision que vous prenez qui va déterminer si vous faites ce que le corps veut ou qu'est-ce que l'esprit veut. Donc, on peut désirer dans le fond de son cœur, par exemple, de se mettre en forme physiquement, d'être en santé. Puis, on sait que pour faire cela, il faut faire des exercices. Il faut manger bien. Alors, il y a un désir dans l'esprit de faire qu'est-ce qui est nécessaire pour se mettre en forme. Mais quand le cadran sonne, à 6h le matin, ou 5h le matin, ou 7h, je ne sais pas quelle heure vous vous réveillez, le corps peut avoir le désir de rester au lit. Le corps peut dire, bon, c'est pas si grave que ça si on saute une journée d'exercice. C'est pas si grave que ça si on reste couché un peu plus longtemps. Mais dans votre esprit, vous savez que non, la bonne chose à faire, il faut que je me réveille, il faut que je me lève, et il faut que je bouge ce corps parce que je veux que le corps dure longtemps sur la terre. Amen. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez le désir dans votre cœur de faire une chose, mais vous avez le désir dans votre corps de faire autre chose. C'est votre âme, c'est la volonté au niveau de votre âme qui va trancher, qui va faire le choix. Et ce choix va déterminer votre destinée. Amen. On peut avoir le désir dans le cœur de rester fidèle à son épouse. Mais il y a peut-être quelques personnes qui ont des attirances vers quelqu'un d'autre. Et le corps dit des choses et l'esprit dit une autre chose. C'est au niveau de votre âme où la décision va être prise. Et les conséquences, il y a toujours des conséquences à chaque chose qu'on prenne une décision. Soit des bonnes conséquences ou des mauvaises. Vous êtes d'accord? Donc, nous avons le pouvoir de choisir le bon désir. C'est-à-dire que je peux décider même ce que je vais désirer au niveau de mon âme. Je peux pas toujours contrôler, comment est-ce que je veux dire ça? Je peux pas toujours choisir qu'est-ce que mon corps va désirer. Parce que mon corps est toujours infecté par le péché. Mais je peux toujours choisir qu'est-ce que je vais laisser mon âme désirer. Allô, est-ce que vous êtes là? parce que c'est là la clé de victoire. Deutéronome 5, 21, écoutez ce verset. « Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain. » Est-ce que tu vois qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il donne un commandement et il nous dit quoi désirer. Les gens disent, mais si je le désire, je le désire, j'ai aucun contrôle. Non, c'est pas vrai. Vous avez le contrôle sur vos désirs. Vous pouvez choisir de désirer seulement votre femme. Amen? Pour moi, la décision est faite depuis longtemps. Je désire personne sauf ma femme. Est-ce que cela veut dire que si je me laisserai aller, si j'alimenterai mes yeux et mes oreilles avec autre chose? Ah, j'ai vu, il faut qu'il traduise en français parce que j'ai vu hier soir même une vidéo. Et le message, j'ai préparé depuis longtemps avant ça, mais j'ai vu une vidéo d'un nouveau film. Vous avez entendu le film Facing the Giants, Faire face aux géants, mais ils ont sorti un autre film. Je pense qu'ils vont sûrement le traduire en français. En fait, c'est une église en Géorgie qu'ils font les films avec un budget minime, mais c'est numéro 4. C'était numéro 4, qu'est-ce qu'on dit, les box-office, on pourrait dire. Ça a déjà gagné 10 millions. Et dans le fond, c'est un film simple qui parle d'un mariage qui est un pompier qui est prêt à perdre sa femme et donc il prend les bonnes décisions. Mais il y a un chant avec un clip vidéo, mais ça parle de ça. Il dit, faites attention les yeux à qu'est-ce que vous regardez. Faites attention aux oreilles à qu'est-ce que vous entendez. Et vraiment, le message du film, c'est que personne s'écroule dans une journée. C'est un processus lent. Et à chaque fois qu'on regarde des choses qu'on ne devrait pas regarder, et on écoute des choses qu'on ne devrait pas écouter, ça nourrit les désirs malsains. Et quand ces désirs malsains sont alimentés, on prend des décisions malsaines. Et si on prend des décisions malsaines, c'est quelque chose, il faut qu'il traduise. Si vous comprenez l'anglais, je peux vous donner le site pour aller voir, parce que ça montre même les clips vidéo d'un monsieur qui est prêt à commettre l'adultère et avoir des décisions. Mais tout le monde dans le film marche en reculant. C'est comme ça revient dans le temps jusqu'aux décisions qu'il va prendre. Est-ce qu'il va faire le bon choix? Et finalement, il a fait le bon choix. Il est là avec sa petite fille qui demande, « Papa, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? » Et là, il réfléchit, il prend la bonne décision qui, justement, a évité l'adultère. C'est quelque chose. Et votre vie est comme ça. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas marcher en reculant. Vous ne pouvez pas remettre la pâte à dents dans son contenant. Impossible. C'est pourquoi il faut maintenant prendre une décision de désirer la bonne chose. Vous avez le contrôle sur ce que vous allez désirer au niveau de votre âme. Et je vais vous montrer comment faire cela dans quelques minutes. Romains 7, 18. Regardons ceci. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont ressenti cela? Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Donc là, on voit qu'il y a un combat. Les désirs du corps, les désirs du cœur, c'est l'âme qui va décider. On continue, il y a un autre verset, hein, Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les quoi? Désirs, souligne le mot désir de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a quoi? Des désirs de contraire à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux afin que vous fassiez point ce que vous voudriez. Encore le point qu'on est en train de souligner, c'est que nous pouvons choisir le bon désir. On a un combat. La chair a des désirs. Mais mon esprit a des désirs. Et les deux sont contraires. Dans mon cœur, je veux faire le bien, mais je ne fais pas le bien que je veux. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi à l'œuvre, la loi du péché et de la mort qui agit dans mes membres. Et laisse-moi vous dire que si votre chair est bien nourrie et bien alimentée par ce que vous voyez, ce que vous entendez, le désir de votre chair va être tellement fort que vous allez avoir de la difficulté à faire le bon choix. Mais le contraire est vrai aussi. Si votre esprit est bien nourri et bien fort, ça va être beaucoup plus facile de prendre une décision, de choisir le bon désir. Regarde quelqu'un d'autre et dit, il faut choisir le bon désir. Amen. Il faut décider. Je vais désirer. Et souvent, c'est une question d'attitude. Vous savez que vous pouvez prendre une décision d'aimer la bonne nourriture? Parce que vous êtes conscient dans votre cœur. Votre corps peut être bien en désaccord, par exemple. Votre langue peut dire, je suis pas d'accord. Mais dans votre cœur, tu dis, non, je suis décidé. J'aime bien manger. J'aime manger des choses qui sont bonnes pour la santé. Amen? Et c'est pas un mensonge, c'est la vérité. Comment choisir le bon désir? Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire ou le pouvoir conformément à son propre projet plein d'amour. Dieu travaille, il agit en nous pour nous donner le vouloir et le pouvoir de faire sa volonté. Donc, quand Romains 7 dit, je fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas, il y a un remède, il y a une solution à ce problème. Qui me délivrerait de ce... On va le voir, ce n'est pas dans vos notes, mais en Romains chapitre 7, regardons ceci vite. Si vous avez une Bible, sinon je vais le lire pour vous. Romains chapitre 7. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà vécu ce petit combat entre la chair et l'esprit, les désirs du corps et les désirs du cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà vécu cela? Je devrais voir toutes les mains dans l'air. Sinon, vous êtes menteurs. On va prier pour les menteurs tantôt. Il n'y a pas une personne qui n'a pas vécu ça. Même la personne la plus pieuse sur la planète Terre a vécu cela. Pourquoi? Parce que nous vivons tous dans un corps infecté par le péché. Et notre corps n'est pas encore racheté pleinement. Nous avons juste les premières gages de notre rédemption au niveau de notre corps. Ça, c'est notre sujet. Romains 7, regardons ceci. Et puis, on va le lire. Il dit ici en verset 23, « Mais je vois dans mes membres, verset 22, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme, quoi? Intérieur. » Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes... La loi du péché est dans nos membres, c'est pas dans notre cœur. C'est pas dans votre cœur, c'est dans votre corps où se trouve le problème. Les mauvais désirs sont dans votre corps premièrement. Pas dans votre cœur. Mais continue. Et dit, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Combien de chrétiens ont eu cette expérience d'être misérable? Oh, je fais des choses, je sais que je ne devrais pas faire ça. Oh, je crie à ma femme et je sais que je ne devrais pas faire cela. Oh, j'ai mangé le cinquième morceau de gâteau et je sais que je ne devrais pas faire ça. Il y a des choses que, oh, je voulais pas. Et on dit, oh, quand elle arrive, je vais être gentil, je vais être gentil, je vais être gentil, je vais pas crier, je vais pas crier, puis la porte ouvre et, je voulais pas faire ça. Mais c'est qui peut nous délivrer? Et voici la réponse. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, mais je suis par la chair esclave de la loi du péché. Mais il continue en verset 1 de chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et je vais revenir à ça dans quelques minutes. Mais qu'est-ce que je voulais souligner tout de suite? C'est que Dieu crée en nous le vouloir de faire sa volonté. Soyez honnêtes, est-ce qu'il y a des gens ici que vous avez juste au moins un petit désir dans votre cœur de faire la volonté de Dieu. Je pense, j'ose dire qu'il n'y a personne dans cette pièce qui n'a pas au moins une petite étincelle de désir de faire la bonne chose et servir Dieu. Et voici la bonne nouvelle. Si vous avez juste un petit désir minuscule, il faut vraiment chercher avec une loupe. Ah oui, je l'ai trouvé. Ça prouve quand même que Dieu agit dans votre vie. Parce que selon Philippiens 2, c'est Dieu qui agit en nous, qui nous donne le vouloir. C'est Dieu qui nous donne le vouloir. Le désir de faire la volonté de Dieu n'est pas naturel, c'est surnaturel, ça vient de Dieu. Et parce qu'il nous aime, il a placé en nous ce désir. Mais voici qu'est-ce qu'on peut faire. On peut ranimer ce désir. On peut faire en sorte que le désir devienne plus grand dans notre cœur, mais aussi on peut renouveler notre intelligence et au niveau de notre âme, on peut choisir le bon désir. Comment faire ça? Numéro un, faites de l'Éternel tes délices. Psaume 37,4 dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a deux sens de ce verset. C'est-à-dire qu'il va exaucer vos requêtes de prière, tout ce que vous avez désiré et demandé, il va vous donner oui. Mais savez-vous, moi je crois que si tu fais de l'Éternel tes délices, les désirs de ton cœur vont changer. Ce que vous voulez va changer. Vous allez dans votre cœur, vous n'allez plus vouloir le cinquième morceau de gâteau. Dans votre cœur, vous n'allez pas vouloir commettre l'adultère ou faire autre chose. Les désirs de votre cœur vont être conformes à son désir, n'est-ce pas? Donc, fais de l'Éternel tes délices. Donc, sais-tu, c'est un choix encore qu'on fait. Au niveau de mon âme, je prends une décision. Comme j'ai pris une décision que Tania est l'objet de mon affection dans la vie conjugale. J'ai pris cette décision quand j'avais 17 ans, parce qu'on s'est connus à 17 ans, on s'est mariés à 18 ans. J'ai pris une décision. Ça, c'est la femme de ma vie. Pour le restant de ma vie. Elle a 17 ans. Elle est belle, elle est merveilleuse, elle est sympathique, je suis en amour. Je sais qu'un jour, elle va toujours être belle, mais un jour, elle va avoir, la couleur de ses cheveux vont changer. Elle n'aura peut-être pas la même forme qu'elle a aujourd'hui, mais elle va toujours être belle. Moi, j'aurai peut-être moins de cheveux, mes cheveux vont être gris, mais elle va m'aimer. Pourquoi? Parce que c'est une décision. J'ai fait le choix. Elle est l'objet de mon affection et de mon désir. Et c'est ça qu'on fait. On fait ça premièrement avec Dieu. Dieu, c'est toi qui es l'objet de mon affection. Je veux pas avoir des idoles dans ma vie. Je veux pas aimer une autre personne, une autre chose plus que je t'aime. Je prends une décision aujourd'hui que je permets à rien ou à personne de prendre ta place dans ma vie. Je fais de toi mes délices. C'est une décision. On prend cette décision et quand on fait de l'Éternel nos délices, il nous donne le désir de notre cœur. Et notre volonté est conforme à son volonté. Amen. Numéro 2, désirez la parole plus que toute autre chose. Savez-vous que la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Elle est vivante. La Bible dit, la parole de Dieu est vivante, c'est efficace, plus tranchant qu'une épée, n'est-ce pas? Le verset dans le psaume 48 dit, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Je veux faire ta volonté. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire la volonté de Dieu? Voici la clé. Est-ce que la loi de Dieu est au fond de votre cœur? La loi de Dieu, la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est dans le fond de votre cœur, vous allez vouloir faire sa volonté. Allô? On parle de comment choisir le bon désir. Donc, voici la première chose, on prend une décision. Personne ne va prendre la place de Dieu, je fais de lui mes délices. Deuxièmement, je prends une décision de désirer, comme avec l'alimentation naturelle, je prends une décision de désirer la nourriture qui est bonne pour la santé, au lieu de vouloir manger toute la cochonnerie. Je parle du désir du cœur, pas le désir de la chair. Parce que la chair va toujours vouloir manger 10 morceaux de gâteau. La chair va toujours vouloir avoir tout ce qu'il peut avoir pour stimuler les désirs et les impulsions de la chair. Amen. Mais le cœur est une autre chose. Et mon âme va prendre la décision. Donc, regardons ce verset. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Encore, désirez comme des enfants nouveau-nés. Comme de nouveau, vous savez que les enfants nouveau-nés désirent le lait. Moi, j'ai pas beaucoup dormi pendant 10 ans. Parce qu'on a eu 5 enfants dans une période assez approchée et on avait, à un moment donné, 3 enfants en couche même. Et quand les enfants désiraient de quoi, ils nous laissaient savoir. Et c'était pas un mémo ou un courriel ou un email qu'ils nous envoyaient en disant, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre rendez-vous pour demain matin ou à 10 heures pour me nourrir? Non, c'est, maintenant! Mais le désir était là. Et la Bible dit, désirez comme des nouveaux-nés le lait de la parole. On devrait être comme, ouais, il faut que je mange. N'est-ce pas? Regarde, quelqu'un a dit, ouais, j'aime la parole. C'est juste pour vous réveiller. Désirez la parole plus que toute autre chose. La parole vaut mieux que l'or. Et c'est la parole qui va vous transformer. On parle de la volonté. Si vous voulez prendre toujours le bon choix, il faut savoir c'est quoi le bon choix aussi. Comment est-ce qu'on peut savoir c'est quoi le bon choix? Dans la parole de Dieu. La parole de Dieu révèle sa volonté. Alors j'aime la parole, j'aime la volonté de Dieu. Et je suis déjà décidé que peu importe qu'est-ce que je trouve dans la parole, je vais le faire. Même avant de savoir c'est quoi. Parce que j'ai confiance dans sa parole. Et j'ai confiance dans sa bonté. Et j'ai confiance dans sa nature. Amen. Donc, désirez la parole. Numéro 3, nourrissez votre esprit et laissez mourir de faim les désirs de la chair. Encore, si mon cœur a des désirs et ma chair a des désirs, et c'est mon âme qui va trancher et qui va prendre la décision et faire le choix, il faut que mon esprit soit bien nourri pour que la voix de mon esprit soit forte et que la voix de ma chair soit vraiment faible. Ça fait des mois, j'ai rien eu à manger. J'ai regardé aucune chose mauvaise depuis des mois et je crève de faim. C'est ça qu'on veut développer. Galates 6:7, ne vous y trompez pas, on se moque pas de Dieu. On se moque pas de Dieu. Tout le monde dit, on se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, c'est notre choix. Ce que vous mettez à l'intérieur est ce qui va sortir. On a un dicton en anglais, on dit « garbage in, garbage out ». Cochonnerie qui rentre, cochonnerie qui sort. Et c'est ça. Il y a des choses qui sont peut-être pas un péché en soi, mais est-ce que ça nourrit votre esprit? Toutes choses sont permises pour la vie, mais toutes choses n'édifient pas. Donc faites attention. Moi, je veux vraiment être transformé. Je veux penser la bonne chose, je veux désirer la bonne chose, et je veux choisir la bonne chose pour être transformé. Je veux contrôler mes pensées, contrôler mes émotions, et je veux aussi contrôler mes choix. Et voici la clé. Je fais de l'éternel mes délices, je désire la parole plus que toute autre chose, je nourris mon esprit, et je laisse crever de faim le désir de la chair. Regardons ce verset Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui prennent bien soin de leur chair? Ils sont sûrs et certains de nourrir les désirs, les impulsions de la chair régulièrement. La chair veut toujours quelque chose. Manger, 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 manger. Je ne parle pas juste de nourriture, mais manger les choses visuelles, les choses, la musique. La chair veut toujours être stimulée constamment. Est-ce que vous, c'est pourquoi, regardez notre société aujourd'hui. Posez la question, c'est quoi la chose le plus importante dans notre société aujourd'hui? Soyons honnêtes. Moi, je dirais que, j'ose dire, c'est pas scientifique, mais en Amérique du Nord, là où on a eu la prospérité, tu vas dans le tiers monde, la priorité numéro un peut être survivre, manger, mettre de quoi dans la bouche. Mais en Amérique du Nord, la priorité numéro un, d'habitude, c'est quoi? C'est les loisirs ou d'être stimulé visuellement. C'est, qu'est-ce qu'on appelle, comment est-ce qu'on appelle ça, des détentes, des entertainment. Comment est-ce qu'on dit ça? C'est ça. Divertissement. L'idole numéro un en Amérique du Nord, c'est le divertissement. N'est-ce pas? Parce que la chair veut toujours faire quelque chose pour que je sois stimulé, pour que je puisse avoir de fun. Ça, c'est la raison d'être, n'est-ce pas? Mais prenez le temps de nourrir votre esprit. Si vous prendrez autant de temps de nourrir votre esprit que vous prenez pour stimuler les choses dans votre corps, laissez-moi vous dire que vous allez être transformé. Est-ce que vous me suivez? Finalement, numéro 4, on termine avec ceci. Par l'esprit, tout le monde dit par l'esprit, faites mourir les œuvres de la chair. Ouh, c'est violent, pasteur. Oui, c'est violent. Mais ça donne des résultats extraordinaires. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent avoir une vie extraordinaire? Une vie extraordinaire, c'est quand vous avez des pensées extraordinaires, vous avez des désirs extraordinaires et vous faites des choix extraordinaires. C'est vraiment pas compliqué, c'est pas un secret. Quand votre volonté est soumise à la volonté de Dieu, quand vos pensées sont soumises à la volonté de Dieu, quand vos désirs sont en ligne avec la volonté et vos émotions sont contrôlées par la parole de Dieu, votre vie va être belle. Romains 7, 18, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 2 de Romains 8, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vous, encerclez le mot corps, mortel, par son esprit qui habite en vous. Romains 8, 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Allô? Si vous vivez selon la chair, le corps, si vous vous laissez conduire par toutes les impulsions du corps et vous faites tout ce que le corps vous dit de faire, vous allez mourir. Mais si vous marchez selon l'esprit, vous allez vivre. Et la vie abondante. Comment est-ce qu'on peut faire? Parce que le corps veut me contrôler. Je fais mourir ses œuvres. Je fais mourir ses désirs. Comment? Par l'esprit. Et l'esprit de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de l'esprit de la mort qui agit dans mes membres. Vous savez, la loi de la gravité est en fonction d'aujourd'hui. Si je saute, je vais tomber. Avez-vous remarqué que je n'ai pas resté pris dans le plafond ce matin? J'ai sauté en haut, mais je suis revenu à terre. Pourquoi? C'est une loi. Et c'est une loi ne fait exception de personne. Ça marche pour vous comme ça marche pour moi. Savez-vous que vous avez une loi dans vos membres, la loi du péché et de la mort, qui veut que vous péchiez, que vous fassiez la mauvaise chose, que vous preniez la mauvaise décision. Mais, qu'est-ce qu'on fait pour surmonter le problème? Comme avec la loi de la gravité, on peut appliquer une loi qui est supérieure ou qui va complémenter la loi de la gravité ou vaincre la loi de la gravité, la loi des aérodynamiques, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on peut prendre des tonnes de métal et de plastique et de tissu et on peut mettre 300 personnes qui pèsent entre 100 et 200 livres. On peut prendre 300 personnes, on peut mettre des valises, on peut mettre des tissus, on peut avoir de métal, acier, de verre et de la plastique, des tonnes de matériaux, et on peut décoller dans qu'est-ce qu'on appelle un avion. Et on peut propulser cette machine dans l'air, atteindre 35 000 pieds dans l'air, et rester dans l'air pendant des heures et des heures. On peut se rendre dans 6 heures, on peut être à Paris, ou si on veut, on peut prendre des vols et aller jusqu'en Asie. Laisse-moi vous dire, c'est la loi des aérodynamiques. Est-ce que la loi de la gravité est encore là? Oui. Le pilote d'avion n'appelle pas le météo en disant, peux-tu suspendre la loi de la gravité pour les prochaines 6 heures parce qu'il faut qu'on aille à Paris? Non, ça se peut pas. On peut pas dire à notre cœur, peux-tu juste me laisser tranquille pour les prochaines 10, 15, 20, 30 ans que je vais rester sur la terre, laisse-moi tranquille parce que je veux faire la volonté de Dieu. Non, la loi du péché et de la mort sera toujours présente en vous. Mais si vous appliquez la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, vous allez pouvoir voler comme le papillon vole. Comment faire cela? Par l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez rempli de l'esprit. Il ne faut pas juste être né de l'esprit, mais rempli de l'esprit. Parlez en langue, priez, ouvrez votre bouche et louez et adorez Dieu. Moi, je sais que la chose qui m'a changé plus que toute autre chose, parce que moi, j'ai eu des moments dans ma vie spirituelle, au début de ma vie chrétienne, quand j'étais jeune, où c'était une vie yo-yo. Mais une fois que j'étais baptisé du Saint-Esprit, une fois que j'ai pris le temps de renouveler mon intelligence avec la parole de Dieu, les choses qui m'ont lié avant, toutes ces chaînes ont été brisées. Et Dieu ne fait exception de personne. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ peut marcher pour vous aussi. Amen. On va se lever debout. On va prier. Alléluia. J'ai pris un peu de temps ce matin pour expliquer l'importance de la volonté. Je mets devant vous la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie. Aujourd'hui, le Seigneur met devant vous le choix. Restez chenille ou devenez papillon. Voler ou pas voler, dans le sens de surmonter les obstacles ou être écrasé sous les obstacles. Mener une vie victorieuse ou vivez dans l'échec. C'est votre choix. Et moi, je suis résolu. Et le Seigneur travaille en moi, et le Seigneur travaille en vous pour vous donner le vouloir et le pouvoir. Si tu veux, tu peux. On va le dire ensemble. Si je veux, je peux. Pourquoi? Parce que Dieu est en vous. Et il te donne le vouloir. Et il te donne aussi le pouvoir. Quel choix est-ce que vous allez faire? Vous avez des choix devant vous. Ce matin, il y a peut-être des gens qui ont besoin de choisir entre le ciel et l'enfer. Il y a d'autres qui ont besoin de choisir entre la réussite et l'échec financier. Il y a d'autres que c'est le choix entre la réussite ou l'échec au niveau de leur vie familiale. Il y a d'autres que c'est le choix entre la santé ou la maladie. Vous avez les choix à faire. On va se laisser transformer. On va laisser le Saint-Esprit nous diriger. On va faire de l'Éternel nos délices. On va aimer sa parole plus que toute autre chose. On va nourrir notre esprit et laisser mourir de faim notre chair. Et par l'esprit, on va faire mourir les œuvres de la chair. On va crucifier la chair avec ses désirs pour pouvoir vivre pleinement en Jésus-Christ. J'ai dit au début de la réunion, je crois qu'il y a des décisions qui s'en viennent pour vous individuellement et pour nous en tant qu'Église, dans les prochains mois même. J'ai vraiment ça dans mon cœur. Les prochains mois peuvent être vraiment critiques pour nous. Qu'est-ce qu'on va décider de faire avec notre vie? On peut choisir le status quo ou on peut choisir une vie extraordinaire. Ce matin, vous pouvez décider, bon, mais c'est un bon message, bon, j'y vais. Ou vous pouvez prendre une décision et faire un choix. Seigneur, je sais que qu'est-ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est vrai, et j'ai besoin de prendre le temps de réfléchir, de méditer et de prendre les bonnes décisions et de faire en sorte que je développe un pattern de bons choix dans ma vie. Ça vient dans mon cœur maintenant. Regardez-moi, il y a des gens ici, vous avez un pattern de mauvais choix. Depuis des années, vous prenez des mauvaises décisions et vous vivez des conséquences. Qu'est-ce que Dieu veut? Et c'est ça, toute cette idée que Dieu nous donne de renouveler votre intelligence. Soyez transformés. Dieu veut que vous établissiez un pattern de bons choix. Où régulièrement, vous allez avoir une réputation d'une personne qui prend toujours la bonne décision. Ma volonté est soumise à sa volonté. Bonne nouvelle, c'est que même si vous avez pris les mauvaises décisions dans le passé, même si le pâte à dents est déjà pas mal gaspillé, qu'aujourd'hui, par la puissance de l'Évangile, Dieu vous offre un autre choix. Et Dieu vous offre, dans plusieurs cas, un nouveau départ. Donc, j'aimerais juste savoir s'il y a quelqu'un ici, si vous êtes honnête avec vous-même, vous n'êtes même pas sûr d'avoir pris la bonne décision au niveau de votre salut et votre éternité. Dieu a mis devant vous le choix entre le ciel et l'enfer. Choisir Jésus ou rejeter Jésus. La Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Jésus a dit que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Donc ce matin, je vais juste te donner l'occasion. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de donner sa vie à Jésus? Soyons honnêtes, si tu quittes la bâtisse aujourd'hui, tu tombes mort, ton cœur arrête de battre. Est-ce que tu as l'assurance, sans aucune doute, que tu iras directement au ciel? Sinon, tu peux l'avoir aujourd'hui. Je t'invite pas juste à devenir membre de cette église, c'est pas ça. S'asseoir dans une église ne fait pas de toi un chrétien. Prier ne fait pas de toi un chrétien. Lire la Bible ne fait pas de toi un chrétien. La seule chose qui fait de toi une nouvelle création dans Jésus-Christ, c'est d'accepter son sacrifice. C'est un don gratuit qu'on n'accepte pas la foi. Tu confesses avec ta bouche. Tu crois dans ton cœur. Je vais compter à trois. Je vais taper ma main. Quand je tape ma main, s'il y a quelqu'un qui a besoin de donner sa vie à Jésus, n'aie pas honte, mais lève ta main haut dans l'air. Qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Un, deux, trois. Il y a une personne qui a levé la main, mais c'est... OK, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Peut-être c'est pour revenir à Jésus. Parce que vous n'avez pas besoin de le faire 4-5 fois, mais il y a une autre personne qui a levé la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin? Vous voulez revenir à Jésus-Christ? Je lève la main haut. Amen. Donc, je vais vous inviter à venir. Parce que Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, ne sois pas gêné. Venez. Alléluia. C'est un bon choix. Là, tu avais un choix à faire. Une partie de toi qui dit, ah, fais ça. Une autre partie qui dit, fais pas ça. Mais tu as fait le bon choix. Ta volonté t'a propulsé dans la bonne direction. Et ça, c'est juste un choix dans une longue liste des choix que vous aurez à faire dans le futur. Mais aujourd'hui, vous prenez la décision qu'à partir de maintenant, vous allez vivre pour Jésus-Christ. Peu importe qu'est-ce qu'il te demande à faire, tu vas dire, oui, chef, c'est toi qui es en charge. J'aimerais que tout le monde prie avec ces hommes et cette femme, qu'on puisse vraiment prier une prière de foi et on va confesser avec sa bouche que Jésus est notre Seigneur et notre Maître. Pour quelques-uns de vous, c'est peut-être la première fois que vous faites cela. Pour les autres, c'est peut-être un renouvellement de votre engagement envers Dieu. Amen. C'est ça. Pour madame ici, c'est pour vraiment revenir reconsacrer sa vie au Seigneur. Et les autres, je ne sais pas. C'est la première fois pour toi. Et pour reconsacrer sa vie. C'est merveilleux. Donc, on va prier ceci. Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus. Et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur, mon Seigneur et mon Maître. Je crois de tout mon cœur que Jésus est mort pour moi et qu'il est ressuscité. Je te donne ma vie aujourd'hui, et je te remercie. Je fais le choix. Je choisis la vie. Et à partir d'aujourd'hui, je vais te servir. Merci pour ce nouveau départ. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci que tous mes péchés sont effacés et ces choses n'existent plus. Mais qu'aujourd'hui, je recommence une nouvelle vie et je serai transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ces personnes? Je te félicite d'être venu. Mais on a des préposés qui sont là pour prier avec vous et vous offrir une Bible. C'est un cadeau. Si vous voulez aller avec eux juste pour deux minutes, on a une petite pièce juste en arrière ici avec les Bibles qu'on veut vous offrir. Seigneur est bon. Mercredi soir, faites le bon choix. Soyez là. Parce qu'on va avoir des bonnes choses à voir ensemble. Et Père, merci. Nous allons faire l'impact dans cette ville, cette province, la francophonie et au-delà. Mais nous te remercions, Seigneur, que dans les jours et les semaines et les mois à venir, nous aurons chacun des choix à faire. Et Seigneur, nous prenons une décision maintenant de développer et d'établir un pattern des bons choix, Seigneur, en faisant de toi nos délices, en désirant ta parole plus que toute autre chose, en nourrissant notre esprit, en laissant mourir de faim les désirs de la chair, et par l'esprit en faisant mourir les œuvres de la chair. Au nom de Jésus.